Ce chiot est dédié à la version de l'âme et l'une échama de Karen Ruth Lane. La question de Jérémy.
Donc, j'ai eu mon oncle hier au téléphone, donc il est religieux. Donc, on a parlé du problème de l'armée. Donc justement, lui il m'a dit que ça serait bien.
Quel problème de l'armée?
Bah, pour les bafouris, que pour du fait que les bafouris doivent.
Les élèves de l'Yeshiva.
Ouais, les élèves de l'Yeshiva. Bon, on doit faire l'armée. Donc lui il m'a dit qu'il ne voyait pas le problème et que justement c'était serait bien s'il crée une section purement religieuse, juste religieuse, et que justement ces élèves-là des yeshivotes, donc fassent l'armée genre la moitié de la journée et qu'ils étudient l'autre moitié de la journée. Donc je voulais savoir est-ce que c'était un bon programme pour.
Une bonne solution ou pas. Elle existe déjà, ça s'appelle Hesder.
Hesder, c'est un. Faire
en plus grand encore plus. Bon, comme j'expliquais dans un cours que j'ai fait dernièrement, donc ce cours sera la deuxième partie. Ce cours s'intitule Lapide, Tsahal et les étudiants de Yeshiva. Deuxième partie cette fois. Je vais commencer à expliquer, et c'est vraiment l'essentiel de la compréhension du problème. C'est aussi, on peut dire, la compréhension qu'a le monde religieux de cette notion que je veux dire maintenant et l'incompréhension qu'a le monde non religieux de cette notion fait qu'il y a le problème aujourd'hui de confrontation entre ces deux optiques. Le monde religieux dit une chose très simple. Il dit « Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous, âme Israël ?» Tous les peuples, on est un peuple. On n'est pas une religion, parce qu'on peut être juif sans être religieux. On n'est pas une descendance génétique, parce qu'on peut se convertir. On n'est pas tous les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. On n'est pas une façon de vivre, parce qu'un non-juif qui va vivre comme un juif, ben, n'est pas juif. Il y a beaucoup de juifs qui ne vivent pas comme un juif devrait vivre, et pourtant ils sont juifs. Ce n'est pas une conscience. Parce que beaucoup de juifs ne sont même pas conscients qu'ils sont juifs. Et pourtant, ils le sont. Et des fois, il y a des fils de convertis qui ne savent pas que leur mère ou grand-mère s'est convertie de façon qui n'est pas valable. Ils se croient juifs. Donc, il a conscience d'être juif, mais il n'est pas juif. Donc, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une naissance génétique. Ce n'est pas une identité. C'est un peuple. Un peuple juif. Mais c'est un peuple différent des autres peuples. Tous les peuples sont définis par une appartenance à leur terre. Les Français, c'est ceux qui habitent depuis un certain temps en France. Hein, un Écossais qui a quitté l'Écosse il y a 1000 ans, depuis qu'il habite la France, ben c'est un Français. Il ne sait même pas qu'il est Écossais. Par contre, un Juif qui habite la France depuis 1000 ans aussi, on va dire, alors il est Français, mais il est Juif. Il ne perd pas son identité juive. Il est Juif français. Ce n'est pas une religion. C'est un double nationalité. Juif français. Musulman, c'est une religion. Un musulman, c'est une religion. Jamais tu n'entendras pas, on a entendu parler, on n'entendra parler non plus, du peuple musulman. Il n'existe pas le peuple musulman. Il y a le peuple, tous les peuples que nous connaissons aujourd'hui, y compris beaucoup de peuples européens, d'accord, qui sont de confession musulmane. Mais tu n'as pas le peuple musulman.
C'est le langage, peut-être.
Pardon ?
C'est le langage qui veut ça, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une religion.
Je pense qu'un musulman qui se dit je suis un athée, d'accord ? Il dira pas qu'il est musulman. Il dira que je suis athée. Mes parents sont musulmans, moi je suis athée. Un juif qui est athée dit moi je suis un juif athée. Il y a beaucoup de juifs athées qui se disent juifs athées. C'est clair. Il y a une religion musulmane et un peuple juif. C'est une religion juive. Mais mon sujet maintenant c'est le peuple. Tous les peuples sont définis par appartenance à leur terre. Tous les peuples. Nous, pas. Cette terre nous appartient. C'est nos terres. Dieu en témoigne dans la Torah. On y est très très attaché. On fera tout pour la garder, Bézat Hachem. Mais ce n'est pas elle qui nous définit en tant que peuple. Nous sommes nés dans le désert. Le peuple d'Israël est né en tant que peuple d'Israël lors de l'événement du Mont Sinaï. Là, son identité commence. Et son identité, elle est autre chose. Preuve en est que ce peuple habite hors de sa terre depuis plus de 2500 ans. La majorité des juifs habitent hors de la terre d'Israël depuis 2500 ans. La majorité des juifs n'y habitent pas, et néanmoins ils sont juifs. Donc elle nous appartient, mais ce n'est pas elle qui nous définit en tant que juifs. Oui.
La Torah est rattachée à la terre, comme on dit
ça, parce qu'il y a la Torah est rattachée à la terre d'Israël, c'est clair. Et nous sommes rattachés à la terre d'Israël. Nous ne sommes pas définis par elle. On ne peut pas dire que la terre d'Israël définit la Torah. La Torah, elle a une attache extrêmement importante avec la terre d'Israël.
C'est,
oui.
C'est ce qui nous définit aussi en tant que juifs.
La terre.
La Torah,
ce que je dis, ce qui nous définit en tant que juifs, c'est la Torah. Donc on a dans notre définition, de même que la Torah est attachée à la terre, dans notre définition, nous sommes attachés à la terre. Oui. Mais notre définition n'est pas la terre. Notre définition, elle est la Torah. Il faut bien comprendre cela. Et c'est une chose qui va extrêmement loin.
Pardon ? On est appelé Israël.
On est appelé Israël. Et la terre est appelée la terre d'Israël. Elle n'a pas de nom propre. Tous les pays, ça se peut que dans d'autres langues c'est différent, mais en hébreu et en français, tous les pays ont leur nom. France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, le Japon, etc. La terre d'Israël n'a pas de nom. La terre d'Israël et pas l'Israël. Ça n'existe pas. En hébreu, Eretz, la terre Israël, d'Israël. Et elle n'a pas de nom en soi. Elle n'a pas de nom en soi. Par contre, elle dit, elle appelle l'Égypte, Mitzrayim, Lévanon, Souria, d'accord. La Torah, elle donne des noms. Babel, Babylonie, d'accord. Elle donne des noms à l'époque antique, de pays. La terre d'Israël n'a pas de nom.
Elle a des noms.
Erz Knan.
Kenaran, Shomron, Yehuda. On a mis une frontière globale pour tous.
Il y a des noms de villes et elles ont des régions. Shomron.
Des régions, c'est comme le Lévanon.
Qu'est-ce que tu me dis ? Donne-moi quel nom tu donnes. Shomron. Knaan, c'était les habitants d'avant. Eretz Knaan. Avant, c'est la terre de Canaan.
Tous les noms qui sont cités dans Yeshua pour dire que vous avez conquis cette terre. C'est les peuples qui sont nés sur cette terre.
Ou les peuples qui sont nés, ou la région. T'as la région de Givon et sa région, Shomron.
Je vais en Shomron.
Fait, ok. Ouais, je n'ai aucun problème à dire qu'il y a des régions. Il y a des régions qui ont des noms, je suis d'accord avec toi, aucun problème. Mais elle, dans la globalité, c'est quoi ? C'est quoi son nom ?
On en a fait une globalité.
Elle a une globalité. On en a fait. Hachem l'appelle la terre d'Israël. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Là, Hachem, dans sa Torah. Moi, je parle maintenant juivement, d'accord ? Après, je ne viens pas maintenant faire un débat avec eux. Je parle que d'après le judaïsme, la Torah appelle cette terre la terre d'Israël. Contrairement aux autres pays qui sont appelés d'après un nom propre. Voilà. Ça veut dire que, et le juif, et la terre, ils ont une définition extrêmement bizarre. La terre, elle reçoit sa définition par à qui elle appartient. Et le juif, il n'a pas de définition. Et jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez vérifier, il n'y a pas de définition rationnelle du juif. Parce que ce n'est pas un peuple défini par une terre, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une transmission génétique. On ne sait pas ce que c'est.
C'est un peuple fier.
Alors qu'est-ce que c'est ?
C'est la Torah.
C'est une réalité spirituelle. L'âme juive. L'âme, c'est tout ce qu'il y a de moins rationnel possible. Et pourtant, c'est présent, je dirais plus que cela, que dans l'univers, on partage le monde en deux catégories, les choses physiques et les choses métaphysiques. La chose physique, tout et absolument tout est définissable. Il n'y a pas un objet physique qu'on ne peut pas définir. En métaphysique, rien n'est définissable. Dieu, bon, on sait qu'il existe, mais qu'est-il ? On sait qu'il est tout-puissant, on sait qu'il est un, on sait qu'il est infini, mais qu'est-il ? On ne sait pas. Les anges, bon, des envoyés de Dieu, quoi, ils ont des ailes, combien ? Comment ? On ne sait pas. Les démons, l'enfer, paradis, on sait que ça existe, mais qu'est-ce que c'est exactement ? On ne sait pas. Il existe un seul élément physique au monde, le juif. Hein, David, 1m80, 84, pèse...
74
kilos. 74 kilos, bientôt en Shidurim, pas encore, vous ne le voyez pas. Voilà, tu es juif.
Super.
Je te tiens là physiquement. Hein, physiquement, il est là, ouais, un juif. Je demande, qu'es-tu ? Tu me dis juif. Ok, qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Un non-juif, il dira, moi je suis un monsieur français. Français, je sais ce que c'est quelqu'un qui appartient à la terre de France. Qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Il n'y a pas de réponse rationnelle.
Non, et puis tu dois répondre comme vous venez de répondre, c'est un peuple, c'est une appartenance. Mais qu'est-ce qui définit ce peuple ?
Qu'est-ce qui définit ce peuple ? C'est pas pendant à sa
Torah.
Mais il y a des gens qui ne croient pas à la Torah.
Le peuple qui est sorti de Dieu, il y a quand même Dieu. Le sanctuaire qui a été sur un lieu.
Le lieu nous appartient, mais ne nous définit pas. C'est pas Dieu qui nous définit.
Oui, il y a des juifs de partout.
On n'est pas défini par un Sinaï.
Il y a des juifs de partout du monde, des Américains, des Chinois, des...
Alors, qu'est-ce qui nous définit? C'est quoi le juif?
Ce que vous dites, celui qui a perdu cette Torah, même d'après deux...
Mais il est juif.
Il est juif, ok, mais il n'a plus la Torah.
Alors, je dis que c'est quelque chose de plus haut.
Son âme juive, elle est là.
Attends, j'ai dit, ce qui nous définit, c'est la Torah.
Mais son âme, elle est toujours
là. J'ai continué, j'ai dit, c'est l'âme. Notre définition à nous, on a une âme juive.
Oui, mais quelqu'un qui renie la Torah après plusieurs générations, il a encore.
Et après la Torah, il a une âme juive, absolument. Absolument. Israël, Afapil Shechata, Israël où un juif, bien qu'il ait péché, est juif. Il peut devenir le pape, il est juif. Il peut devenir le Dalai Lama, il est juif.
Comme ça, après plusieurs générations.
Non, un juif reste juif pour l'éternité, toujours. Tant qu'il est, il devient juif par sa mère. Il y a des gens qui disent c'est quoi un juif? Celui dont la mère est juive. Ou bien celui qui s'est converti. C'est pas la définition du juif, c'est comment on devient juif. On devient juif ou par conversion, ou par filiation maternelle. C'est comment? Mais qu'est-ce qu'on devient? On devient, il n'y a pas de réponse rationnelle. La réponse, elle est âme. Maintenant, pourquoi je veux dire tout cela? Étant donné que notre définition est métaphysique, notre façon d'agir dans le monde est métaphysique. Il y a, j'ai peu de temps, mais j'en parlais quand même, je voulais faire en plus court. Bon, il y a une histoire très connue, celle de Daniel, chapitre 2. Daniel est un prophète qui a été pris en exil par Nabucodonosor, le roi de Babylonie, lors de la destruction du temple, et amené en Babylonie. Nabucodonosor était un roi terrible, il voulait avoir à sa cour des sages de tous les pays qu'il a conquis. Donc Daniel et ses trois amis Michel, Hanan et Azaria étaient à la cour de Nabucodonosor. Et dans Daniel 2, c'est marqué qu'un matin, Nabucodonosor se réveille, il réunit tous ses sages, Daniel n'était pas présent, et leur dit, écoute, j'ai fait un rêve, j'aimerais connaître le sens de ce rêve. Ça, je lui dis, ben, aucun problème, Sa Majesté. Racontez-nous le rêve, on va vous l'expliquer, vous l'interpréter. Vous nous avez dit, trop facile. Le rêve, vous venez à dire n'importe quelle interprétation, comment je saurai que c'est le vrai rêve? Vous êtes des vrais magiciens, des vrais sages, vous devez être capables de deviner ce que j'ai rêvé. Les sages disent, c'est pas possible, Sa Majesté. Aucun roi n'a jamais demandé à ses sages, à sa cour, à ses magiciens de deviner le rêve. C'est que les anges dans le ciel peuvent faire une chose pareille. Écoutez, on a tous au moins un bac plus 7 en interprétation des rêves. N'ayez pas peur, on vous interprétera le rêve de façon la plus exacte qu'il puisse y avoir. Allez-y. Messieurs, je vous paye ici à la cour, vous êtes une centaine de sorciers, je vous paye ici à la cour, pension complète. Petit déjeuner, 10h, midi, goûter, minuit, le soir, etc. Ça me coûte de l'argent. Si vous ne me servez à rien, on va régler votre compte. Je vous laisse une minute. Les sages essayent de gagner du temps. Un peu nos voit qu'il n'y a rien qui se passe. Il se met en colère énorme et édite un décret. Tous les sages de Babylonie à la fournaise. Le bourreau qui s'appelait Arioch va voir Daniel. Il dit, Daniel, désolé, pas besoin même de préparer tes affaires. Viens comme ça à la fournaise. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Arioch lui raconte ce qui s'est passé. Daniel lui dit, va voir le roi immédiatement, dis-lui que je veux une audience d'urgence. Donc Nabucodonosor sait que Daniel c'est un homme sérieux, il accepte l'audience. Daniel vient lui dire, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures, dans 24 heures je vous raconte le rêve et son interprétation. Nabucodonosor réfléchit quelques secondes, lui dit, ok, j'accepte. Mais Daniel, si dans 24 heures, je n'ai pas la solution, alors je te fais une mort dans mes prisons, comme ça, dans les caves là-bas, quelque chose de spécial pour toi. Daniel fait glups et va voir ses amis, Jacques Daniel Azaria, et ils se mettent à prier. Ils se mettent à prier. Daniel s'endort. C'est passionnant. Je vous conseille de lire Daniel, sinon, ici à la bibliothèque. C'est passionnant. Pas lire la nuit, parce qu'on dort pas toute la nuit, tellement c'est passionnant. C'est passionnant comme livre de la Bible. Daniel s'endort et rêve du rêve de Nabucodonosor et de son interprétation. Le lendemain matin, il vient, il dit à Sa Majesté, tu es en train de dormir sur ton lit, tout d'un coup, tu as vu devant toi une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine d'argent, les pieds, les jambes, le ventre de cuivre, les jambes de fer, le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Une petite pierre venue sans l'intervention d'une main humaine a touché le bout des pieds et toute la grande statue s'est écroulée. Et la pierre a grandi et est devenue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Nabucodonosor dit, banco, Daniel, 1000%. C'est bon, attends, je l'écoute pour l'interprétation. Lui, Sa Majesté, Dieu était le maître du monde, le roi du monde. Il siégeait sur son trône à Jérusalem, le temple que tu as détruit. Et dès lors, c'est toi qui es devenu le roi du monde. Il n'y a jamais eu jusqu'à Nabuchodonosor, en tout cas dans la région, je pense même dans le monde entier, de conquérant aussi grand. C'était le plus grand empire connu jusqu'à l'époque. L'empire de Babylonie. Dieu t'a montré l'histoire de cette royauté. Toi, tu es représenté par la tête d'or. Mais un jour, ton empire va disparaître. Il sera remplacé par la poitrine d'argent. Quel est l'empire qui a conquis les Babyloniens? Ce sont les Perses. Très bien. Comparé à l'argent. Lui aussi, un jour, disparaîtra, conquis par le ventre de cuivre, qui sera l'empire grec, Alexandre le Grand. Qui lui aussi, un jour, sera renversé par les jambes de fer, Rome. Et à la fin, il y aura deux grandes royautés. Le fer et l'argile. Les commentateurs écrivent, le fer, c'est l'Occident, donc la suite spirituelle et physique du monde occidental, l'argile, le monde oriental. Et à la fin, il n'y aura que des doigts. Le Malbim écrit à 150 ans, c'est à la fin, il n'y aura pas deux grandes puissances, il y aura plusieurs puissances. Des 10, une partie orientale, une partie occidentale. Et la petite pierre correspondant au peuple d'Israël viendra, touchera le bout des pieds, et toute la grande statue va s'écrouler. La pierre va grandir et remplir le monde entier. C'est l'époque messianique où le peuple d'Israël régnera dans le monde entier. C'est quel symbole de la pierre? C'est quoi la pierre? La pierre d'abord, c'est ce qui ne bouge pas. Une pierre, je pose une pierre ici, je reviens dans 2000 ans, si on n'a pas touché la table, si on n'a pas bougé la pierre, elle est là. Peut-être un ton soit peu érodé, et même pas forcément. Par contre, si je prends toute autre chose qu'il y a dans le monde, qui n'est pas du domaine minéral, elle a complètement disparu. Végétaux, animal, humain, il n'y a plus rien. Donc la pierre, c'est le symbole de l'éternité. Tous les peuples ont disparu. Nous, on est là.
Non, ça ne bouge pas. Non.
C'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a un deuxième, attendez. C'est vrai. La pierre est symbole de l'éternité. Tu me dis l'or aussi, mais la pierre, elle a aussi une deuxième chose. Je vais y arriver. Alors, tous les peuples ont disparu. Nous, on est là. Quand on dit nos ancêtres les Gaulois, c'est pas nos ancêtres. Les Gaulois n'avaient pas la même langue, la même culture, même religion. Idiom italien, c'est pas la même chose que les Romains, Égyptiens modernes, Égyptiens de l'époque, les Grecs d'aujourd'hui, etc. Peut-être les Chinois, peut-être certaines tribus perses, je ne sais pas. Mais même si on trouve une autre tribu, un autre pays qui a une culture aussi vieille que la nôtre, il y a une très grande nuance entre nous et eux. Pourquoi? Parce que eux sont restés sur leur propre terre. Nous, on était en exil. Ça fait 2500 ans qu'on est en exil. Et un peuple en exil disparaît en 2-3 générations, et ça c'est mille, terminé. T'as pas beaucoup de peuples qui ont tenu plus de 3-4 siècles, pas beaucoup. Aucun, on pourrait même dire. Non seulement cela, exilé, mais chaque génération, comme on dit le soir de Pessah, quelqu'un se lève pour anéantir le peuple d'Israël. C'est écrit il y a 2000 ans. Et chaque génération, ça ne rate jamais. Ahmadinejad, et avant lui Arafat, et avant lui Saddam Hussein, et avant lui Nasser, avant lui Staline, avant lui Hitler, avant lui le KGB, avant lui le NKVD, avant lui les Tsars, et avant lui, chaque génération. Quelqu'un se lève, écoutez les potes, une nouvelle idée, un truc original, personne n'a jamais pensé. Quoi? On va annoncer le peuple juif. Ah tiens, on ne connaissait pas. À tous les coups. Et à chaque fois, il disparaît, et nous on est là. C'est extraordinaire. Quel secret de la pierre? Grâce à quoi on a tenu 3500 ans d'histoire? Grâce à quoi? À notre armée? Grâce à notre âme. Comme on dit, Veihiche Amda, le soir du Pessah, Veihiche Amda. C'est grâce à elle. Car à chaque génération, quelqu'un se promet à anéantir et Dieu nous sauve de leurs mains. C'est quoi grâce à elle? Le sens simple, c'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. La Kabbalah dit, c'est qui? Elle, c'est la Shrina, la présence divine qui est avec nous. Et nous, notre source est dans la Shrina. Notre source est dans la présence divine. De même que Dieu est éternel, nous sommes éternels. De même que le nom de Dieu, de même que Dieu est une notion qu'on ne peut pas déterminer, définir de façon rationnelle, de même la définition du juif n'est pas rationnelle. Et qu'est-ce qu'on montre aux nations? Comment cette histoire-là, ce rêve de Nabuchodonosor? Il montre la statue énorme qui est la force physique. Tous ces peuples ont régné grâce à leur force physique, militaire. Nous pas. On a une petite pierre de rien du tout. Et quel est son secret? La pierre se dit en hébreu Even. Even. Rashi, dans le verset où Misham, Roé, Even Israël, il explique Even, c'est la contraction de deux mots. Av, Ben. Père, fils. que le père enseigne la Torah à son fils. Comme dit la Gemara, quand le fils se met à parler, on enseigne Shema Israël, on enseigne l'hébreu. Et sinon, on l'a enterré. Quoi, on l'a enterré? Il est là, il pétille, il gambade, il est content. On a pensé la Torah, ok, ça va, je n'ai pas enterré. T'as enterré son éternité. Ben, un corps, il y a un corps. Un beau jour, il va mourir. Et quand il meurt, ben, il est mort. Où est son éternité? L'éternité, c'est la Torah. C'est ce que nous montrons aux nations, qu'il y a une notion spirituelle qui transcende le matériel. C'est notre exemple, c'est notre histoire qui montre cela. C'est ça notre rôle. Quand Pharaon reçoit la première visite de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Le premier message de Dieu. Let my people go, laisse mon peuple partir. Béni, Bechori, Israël, mon fils aîné Israël. C'est quoi l'aîné? C'est quoi l'aîné? Qu'est-ce qu'il y a de plus l'aîné que les autres? L'aîné, c'est celui qui dévoile que le monsieur qui s'est marié avec la maman, c'est un papa. Avant, c'était un monsieur avec madame. C'est pas papa. C'est quand il devient papa, quand le fils aîné va naître. Il dévoile l'identité cachée du père. Dieu dit, c'est mon fils aîné, c'est-à-dire il me dévoile. Il dévoile qu'il n'y a pas que le monde physique qu'on pourrait croire. Il y a une spiritualité qui gère ce monde, qui est dans ce monde, qui est présente dans ce monde. Comment on voit Dieu, il est où? Regarde Israël, tu vois que Dieu existe. Comment ce peuple peut survivre 3500 ans sans rien, sans armée? Chaque génération, on veut l'anéantir, il est toujours là. Et tous ses ennemis ont disparu. Explique-moi ça. Et après, il revient en terre d'Israël. Et tous ceux qui ont quitté sa Torah ont disparu. Tous ceux qui ont quitté la Torah d'Israël, la vraie Torah, celle des rabbins orthodoxes, celle des prochains de l'époque, tous les mouvements qu'il y a eu, ils sont où aujourd'hui? Les Baïtosim, les Tzedokim, les Esséniens, les Zélotes, les chrétiens, les Karaïtes, les néologues, les conservatifs de l'époque, d'accord, les réformistes de l'époque. Il y a des réformistes aujourd'hui, il y a des mouvements comme ça. Mais on ne connaît pas un petit-fils ou un arrière-petit-fils d'un de ces mouvements qui est encore juif. Il est goy, il est parti. Les seuls contenus, ceux qui sont attachés à cette Torah-là, qui a le Av, le père enseigné à son fils, qui est devenu père et qui enseigne à son fils. Et ça, ça réussit à transpasser toute l'histoire. C'est ça qu'on montre aux nations. Donc il faut, quand on parle, quand tu parles à ton nom, il faut expliquer d'abord qui nous sommes. Et la tendance, c'est évidemment, oublier qui nous sommes. On est comme tout le monde, on est comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. On n'est vraiment pas comme tout le monde. Et surtout pas commencer à croire qu'on va réussir si on est comme tout le monde. Eux, ils ont leur façon de survivre, on a la nôtre. Il ne faut pas mêler les choses. Dès lors, les grands de la Torah comprennent qu'on est tous dans la même barque. Le juif le plus éloigné de Torah, le plus anti-juif, le plus anti-Torah qu'il puisse y avoir, c'est un juif. Et nous voulons maintenant le juif, le bien de tous les juifs. Pas que du monde orthodoxe. Tous les juifs, on est dans la même barque, on est tous un peuple. Et un juif qui est tué dans le monde entier, peu importe qui, quoi, comment, il est tué parce qu'il est juif, ça nous touche. Et pas qu'aujourd'hui. Moi, je lis un texte qui date d'il y a, je lis qu'en 1120, 20 juifs ont été brûlés vifs à Rouen. Ça me touche. Pourquoi? C'est pas mes parents, pas mes ancêtres, Rouen, j'ai jamais été de ma vie, je connais pas. Non, mais c'est mon peuple. C'est mon peuple. Maintenant, les grands de la Torah, qu'ils ont une seule inquiétude jour et nuit. Faire que le peuple d'Israël aille mieux, survive mieux. Ils ont compris que le seul moyen, c'est Torah. Donc pour sauver nos frères, pour sauver nous-mêmes, mais aussi tous nos frères qui sont loin de Torah, il y a ici une nécessité qui est beaucoup d'études de Torah. Et là, j'en ai une chose dont j'ai cité, dont j'ai parlé le dernier cours, j'ai oublié d'ajouter un point très important. J'avais expliqué que notre essence, c'était Yaakov. Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim, un homme qui étudie la Torah dans les tentes. Et lorsqu'il rentre chez son père Yitzhak, déguisé avec le recouvert avec les peaux de fourrure, son père dit à Kol Kol Yaakov, Vyadem Yede Esav, la voix est celle de Jacob, il entend la voix de Jacob, et les mains sont celles d'Esav. Khazal ont fait une dracha. Ils ont dit, tant que la voix de Yaakov retentit dans les yeshivotes, les mains ne sont pas celles d'Esav. Esav a été béni, tu vivras sur ton épée, la force physique. Nous, notre force, c'est notre bouche, l'étude de Torah. Et tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivotes, alors Esav est ligoté. Les mains sont pas celles d'Esav. Il ne peut pas utiliser son pouvoir, en tout cas contre nous. Maintenant, cette dracha de Chazal, cette explication allégorique du texte, elle est complètement contraire au texte. Que dit le texte? Le texte dit, Yitzhak a dit, la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Or, que dit Chazal? Tant que la voix est celle de Jacob, la voix que j'entends celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Ésav. Au contraire, le texte il dit la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Ésav. La drasha, pour être bien cohérente par rapport au texte, aurait dû être tant que la voix de Jacob retentit, alors Ésav, il a le poignard et il est fort. Ils ont dit le contraire, il n'a rien. Mais le texte dit le contraire. En contre, lorsque la voix de Jacob, les mains sont celles d'Ésav. Et Chazal dit ce ne sont pas les mains d'Ésav. Comment Chazal peut-il retourner le texte comme ça, en faire ce qu'ils veulent? Ça ne tient pas la route. Réponse. Le mot Hakol en hébreu s'écrit Hey, Kouf, Vav, Lamed. Kol, Kouf, Vav, Lamed. Dans le texte de la Torah, le mot Hakol est écrit sans le Vav. Il est écrit Hey, Kouf, Lamed. On peut lire Hakel. Hakel, c'est quoi Hakel? Allège. Pas qu'on arrête d'étudier, alors Ésav vient et brandit le poignard contre nous, il y a la menace de nos ennemis qui vient du monde entier. Pas du tout. Pas quand on arrête d'étudier. Quand on allège la voix, on était à 10 000 décibels, on passe à 9 999 décibels de Torah. Immédiatement, le poignard se lève déjà. Allège la voix de Jacob. Donnez-moi ma sechet Nedarim.
Le deuxième, il écrit avec Vav.
Le deuxième avec Vav.
Tu es sorti d'où?
Avec Vav. À quel Koliakov? Le deuxième Vav, le deuxième Kol m'a écrit avec le Vav. Donc on lit à quel Koliakov? Adam et Esav. C'est exactement cela. Les Darim Lamed Bet. On a une Gemara. Je n'invente pas, c'est une Gemara. C'est sur ça que nous vivons. C'est là-bas. C'était écrit il y a 1500 ans. D'accord? Alors, on va poser une question. Adi Rabbi Elazar. Mipnema nenash Avraham Avinu. Pourquoi a été puni Avraham Avinu? Shinshtabdu banav le Misraim matayim ve'esher shanim. Que ses enfants ont été envoyés en esclavage pendant 210 ans en Égypte. 210 ans d'esclavage. D'abord, coup, mais après très très dur. Très très dur. Tous les jours, on égorge 300 petits bébés pour le bain de sang de Pharaon. Il manque une pierre, on met bébé à la place. Un esclavage terrible, des dizaines d'années. Pourquoi? On n'a rien fait. Je ne comprends pas le sens de ce Gemara. C'est trop. Mais c'est marqué. Répond Gemara. Mais Pnesh a fait un garia betamin chachamim. Parce que Avraham Avinu a fait une angaria avec des tamin chachamim, avec des étudiants de Torah. Qu'est-ce que c'est qu'une angaria? Nous dit le Ran, donc le grand commentateur Rabbi Nissim. De traiter Nedarim, Sholichan Milchama, les a pris à la guerre. Verek et Chanichav, Dainu ben Adam, Shechinech la Torah. Avraham Avinu habite la terre d'Israël. Il y a une guerre. Quatre rois qui viennent de la région de Babylonie font la guerre contre cinq rois de la région ici. Les quatre rois gagnent la guerre et prennent du butin, et aussi ils prennent tous les gens en butin. Parmi ces gens pris en butin, qui y a, ces prisonniers, le neveu d'Abraham, Lot. C'est pas un grand sadique, mais c'est quand même son neveu. Abraham se dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il prend sa yeshiva. Ils sont 317 élèves. C'est pas Ponovitch, c'est pas Mir, petite yeshiva. 317 élèves. Et ils vont se battre, et gagnent la guerre contre les quatre rois. Et ramènent Lot. Ça a pris une nuit. Une nuit. Qu'est-ce qu'il veut faire Abraham? Rester les bras croisés, prendre son neveu comme ça. Je peux sauver quelqu'un, je dois le sauver. Non, 605 personnes en danger. La Torah dit oui, mais quand même, t'as une nuit de Torah qui est partie en poussière. Une nuit de Torah. 210 ans d'esclavage en Égypte, mon cher ami. Je comprends pas. Mais il y a un message. Pas qu'on arrête d'étudier. Une nuit. C'est pas la fin des haricots. C'est la fin des haricots. C'est 210 ans en Égypte, c'est dangereux. On est entouré du Hezbollah, 150 000 missiles. Un missile pour chaque bâtiment ici en Israël. Et il y a l'Iran. Et tous nos amis autour qui sont en plein printemps, automne, hiver, je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais ils sont en état d'effervescence, c'est dangereux. Et on n'est pas aimé dans le monde. Et les communautés juives dans le monde entier, en Europe et partout, on n'est pas tellement en sécurité. Grâce à quoi on tient? Grâce, comme on a fait 3500 ans, Hachem nous protège, en fonction de nos mérites spirituels, principalement études de Torah. Les grands de la Torah veulent la protection du peuple d'Israël, de tous les juifs, même les plus éloignés, tous. Alors ils disent comme ça, c'est très simple. Pas tout le monde peut aller à la yeshiva. C'est comme une armée. dans une armée, tu as les commandos, les aviateurs. Ça, c'est des entraînements très difficiles, etc. Ça, c'est la crème. Tu as des soldats combattants moyens, on va dire les tankistes, les parachutistes, les golems, etc. Et puis tu as les gens qui sont plutôt dans le dans les bureaux, dans le service de renseignement, des trucs très utiles aussi. Mais c'est moins dur. Chacun aide. Il est clair que tu prends un secrétaire et un commando, au niveau de l'impact de défense, le commando fait plus de travail que le secrétaire. Tous sont utiles. Les commandos, c'est les étudiants de Yeshiva. Les secrétaires, ceux qui n'étudient pas du tout la Torah, mais ils sont dans la même armée. On a besoin d'eux aussi. On est un peuple entier. Il nous faut des médecins, des avocats, des maçons. Il faut de tout pour un peuple, c'est normal. Du temps de Moshe Rabbeinu, du temps du temple, il y avait une tribu qui était destinée de Torah, Lévi. Lévi, ils n'avaient même pas de champ. Il y avait quelques autour des villes comme ça. Ils n'avaient pas un nahala dans le partage de la terre d'Israël en 12. Ils n'avaient pas de tribu, pas de terre, pas de territoire, pas de territoire de Lévi. T'as Yuda, Binyamin, Shimon, t'as pas Lévi. Lévi, il est destiné à l'étude de Torah. Là aussi, t'as une tribu, ceux qui veulent, comme dit le Rambam, chacun dont le cœur l'a poussé à devenir, se sanctifier, devenir saint des saints pour étudier la Torah jour et nuit. On a besoin de ces commandos. Tu as les gens qui ne sont pas du tout dans le coup. On va leur demander. Puis t'as les gens qui font aussi, qui ne peuvent pas s'asseoir toute la journée. Ah, ils font à moitié-moitié, moitié armée, moitié Shiva. Tous sont utiles. Si quelqu'un vient me voir et me dit, qu'est-ce qui est mieux ? Comme moi, je me suis, quand on rentre à l'armée, tu as le Bakoum. Bakoum, c'est Bassis, Klita ou Mioun. La base de réception et de sélection. Où on va ? Là, on va.
Intégration
et sélection. Quelqu'un. Il va voir l'officier et dit, moi, qu'est-ce que le mieux que je fasse ? Le mieux, me rendre dans les commandos. Alors, il pèse 150 kilos et il fait 10 mètres, il est essoufflé comme un... Bon, t'es gentil, mais mieux que ce soit un bon cuistot. Tu feras la bonne bouffe pour les commandos. D'accord ? Il n'y a aucun problème. Commando, c'est pas pour toi. Je vois un type qui est super athlète comme ça. Lui dit, moi, les commandos, je pourrais, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère la cuisine. Je ne vais pas avoir le commando. Il a fait gaffe à la cuisine aussi. Mais ceux qui sont faits pour être commandos, bah, qui restent commandos ? Ceux qui sont faits pour faire moitié-moitié, bah, qui soient dans la moitié-moitié. Ceux qui sont faits pour aider les cuistots, qui soient dans les cuistots. Mais prendre les commandos. Maintenant, si le responsable de l'armée dit, dès maintenant, on arrête, on met plus personne chez les commandos. Plus d'aviateurs, plus commandos. Tout le monde en moitié-moitié. Elle fait quoi l'armée ? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Chacun doit faire son maximum. Le maximum, c'est l'étude de Torah. C'est ça notre identité, c'est ça notre pérennité, c'est ça ce qui nous protège. C'est marqué partout dans la Torah. Partout, partout, partout. Alors, celui qui peut être en 100% Torah, eh ben, il fait partie de ceux qui protègent le plus le peuple d'Israël. Celui qui ne peut pas, qu'il fasse à moitié-moitié. Celui qui ne peut pas du tout, qu'il fasse rien du tout. Mais si maintenant, comme Lapid veut le faire, on va prendre tous les gens qui sont en yeshiva 100%, on les met maintenant dans un moitié-moitié, ou dans un rien du tout, même un an, même deux ans, même une nuit, on a mis en danger de façon extrêmement périlleuse le peuple d'Israël. Les grands de Torah ne veulent pas accepter ça. Ils se battent pas pour le monde orthodoxe, ils se battent pour le peuple d'Israël. C'est une chose qui est évidente.
Nous, on peut leur dire ça jusqu'à demain, mais eux, ils comprennent pas cette notion d'accord. De spiritualité. Alors, que nous, on donne la
chaque entièrement raison.
On veut du concret.
T'as entièrement raison. C'est pour ça qu'il y a un débat. Nous, on leur dit, écoutez, vous comprenez pas que vous mettez Israël en danger. Ils disent, non, on comprend pas. On va à l'armée, allez à l'armée aussi. Ouais, mais il y a deux armées. Il y a l'armée matérielle, c'est aussi spirituelle. Elle fait beaucoup aussi. Elle fait beaucoup plus. Ils pourraient comprendre. Parce que, même les psychologues non-juifs dans les armées disent que si le soldat est motivé, il a une bonne motivation, il sera un meilleur soldat. Et ils comprennent pour ça qu'il faut à l'arrière des penseurs qui mettent en place les motivations. Il faut toujours qu'il y ait une certaine partie de la population qui soit celle qui pense et qui donne les messages. Et si maintenant...
On leur parle pas,
ça fait rien, le message il passe, il existe.
C'est nous cette catégorie, les penseurs, c'est
les Shiva. Ils pourraient comprendre cela, mais c'est vrai qu'ils veulent pas comprendre, ou ils comprennent pas, vraiment ils comprennent pas, ou ils veulent pas comprendre, peu importe. Le débat provient effectivement d'un manque de compréhension. Mais nous, on doit aussi connaître notre point de vue. On peut expliquer comme j'ai expliqué maintenant, regarde notre histoire. J'ai beaucoup d'Israéliens, l'histoire d'Israël commence en 48. Il faut leur dire, on a 3500 ans d'histoire, comment on a fait avant ? Ils peuvent entendre cela. Le débat, le vrai problème, c'est cela. C'est qu'il y a des gens qui disent « Non, la Torah ne sert à rien. Je ne peux rien dire. Je peux lui montrer l'exemple de l'histoire. Ou il accepte, ou il n'accepte pas. Mais au moins que nous sachions que si nous voulons vraiment, en tant que juifs religieux, je parle en tant que juifs religieux, ceux qui croient à la Torah, si nous voulons vraiment le bien d'Israël, alors le mieux, c'est 100% yeshiva. Si on ne peut pas, moitié-moitié. Quelqu'un qui est dans un moitié-moitié et il peut 100%, bah, qui est au 100%. Quelqu'un qui ne peut pas, moi, mon premier Rav Gouta, quand j'ai eu, quand je suis arrivé à la yeshiva, j'avais 22 ans, il voulait arrêter de faire la yeshiva. Enfin, le Rav et l'yashiv, c'est Mea Sharim, pas black, black de black. Black de black. Il lui a dit, tu quittes la yeshiva, tu vas à l'armée. Ton sang n'est pas plus rouge que celui d'un autre. On comprend qu'on est tous dans la même barque, on est là pour protéger Israël. Ou on protège dans l'arme qui s'appelle Torah, que nous appelons les commandos, ou on protège dans l'arme qui s'appelle l'armée. L'armée, les vrais commandos, ceux qui vont avec les fusils. Mais qui est plus utile? J'ai bien expliqué, 3500 ans d'histoire te montrent que le plus utile, c'est la spiritualité. Alors bien sûr que celui qui va à l'armée et qui est dans les commandos fait une grande mitzvah, très grande mitzvah, il met sa vie en danger, il fait des efforts, et nous prions pour eux, et nous les aimons, et nous faisons tout. Il n'y a pas un jour à ma synagogue où on ne prie pas pour eux. Pas un jour. Pas un jour. Alors oui, mais si quelqu'un demande maintenant, qu'est-ce qui est mieux pour mieux protéger Israël? Réponse, Torah. Et si des gens ne comprennent pas cela et veulent que le monde de la Torah disparaisse, en tout cas s'amoindrisse, ils mettent de façon extrêmement grave en danger le peuple d'Israël. C'est pour ça que les orthodoxes s'opposent à cela pour le bien du peuple d'Israël.